Caddie ou cadeau? Grand mystère, c'est une énigme. En priant tout à l'heure, je me faisais la réflexion qu'il y a 46 ans que le Seigneur est venu me chercher. Et quand j'ai commencé à aborder son livre, ma motivation principale, c'était moi. Les psaumes, j'ai souvent dit ça, les psaumes ont été les premiers textes qui ont touché mon âme. Et c'était bien, je pense qu'il fallait ça. Mais est-ce qu'il faut lire la Bible uniquement pour soi? On sait que Dieu s'est révélé. On a dit tout à l'heure qu'on avait soif de lui. Est-ce qu'on creuse ce merveilleux livre, non seulement pour satisfaire notre âme, ce qui est essentiel, mais pour le connaître, lui. Paul, qui était pourtant un grand théologien, un grand missionnaire, a dit « Mon but est de le connaître, lui. » Et nous, pour l'instant, comme révélation, nous avons ça. Et plus je le lis, plus je me dis « Mais franchement, il faut que je le lise encore et encore dans l'optique de connaître ce grand Dieu qui est venu me chercher. Au-delà de mes besoins personnels qui sont largement satisfaits par ce livre. » Alors, ça fait bientôt un an et demi, mes amis, que nous sommes engagés, plus ou moins malgré vous, dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome. Cette fameuse lettre, comme vous savez, qui a bouleversé l'Europe et le monde entier au XVIe siècle. Et j'aimerais tant qu'il bouleverse encore notre vie aujourd'hui. Cadeau, caddie ou cadeau? Le chrétien est influencé par une société de consommation. Je ne sais pas si on est conscient de ça. On est très influencé. Le spirituel est devenu un produit de consommation, comme un autre. Bien-être, émancipation, épanouissement personnel, recherche de la divinité en soi, même chez certains, expérience au pluriel, paix intérieure, sérénité, guérison. Et je lisais sur Internet que c'est une tendance croissante. André Malraux, je crois, a dit un jour que le 21e siècle serait spirituel ou pas, alors c'était au sens large. Pas forcément ce que nous entendons, nous, au regard de l'Écriture. Et nos églises n'y échappent pas à cette tendance. Notre culte dominical est parfois considéré comme un petit marché sur lequel on vient faire ses emplettes avec son caddie spirituel pour la semaine qui vient. Ça vous est peut-être arrivé de vivre le culte comme ça. Alors, je vais prendre, voyons, un petit peu de communion fraternelle, un bon morceau de message. Ça, c'est la nourriture spirituelle, c'est important. C'est le centre du culte, n'est-ce pas, le message. Je viens pour le message. J'en mets un gros morceau. Quelques cantiques, quelques nouvelles des uns et des autres, et j'espère ne pas être déçu. Sinon, je vais changer de crèmerie ou rester chez moi. En raisonnant ainsi, je deviens le centre du culte. Ne dit-on pas aussi « je vais à l'église » ou « je vais au culte » comme on dirait « je vais à Leclerc » ou à Auchan » alors que nous sommes l'église. Nous sommes des pierres vivantes. Ce lieu est un lieu comme un autre, bien qu'il soit mis à part. Ce n'est pas un lieu où on va faire n'importe quoi. C'est malgré tout une forme de temple parce qu'il est dédié, il est consacré à l'Éternel. On ne va pas venir faire des beuveries ou je ne sais quoi dedans. Il est mis à part. Et j'aime bien cette idée. Même si on ne s'attache pas au mur, c'est mis à part pour Dieu. Mais nous sommes le temple de Dieu. Et puis, après ce culte où j'ai fait mes emplettes, je rentre chez moi, plus ou moins satisfait de mes bonnes affaires. J'ai même la possibilité de faire mes courses derrière mon écran, Zoom, ou sur YouTube. Et je prends un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et je me fais du bien. Et on a besoin de ça. Mais le culte au Seigneur, Est-ce que c'est un caddie ou un cadeau? Ce que n'est pas le culte au Seigneur, en tout cas d'après ma compréhension de l'Écriture, ce n'est pas une simple cérémonie religieuse de 10h à 12h le dimanche. Ce n'est pas une œuvre méritoire, je viens au culte, donc je suis quelqu'un de bien. Ce n'est pas un moment pour m'édifier moi-même, même si j'en retire du bien. Le culte n'est pas un moment pour prendre du bon temps, même si c'est du bon temps. D'accord ? Ce n'est pas un moment où je reste passif consommateur des biens spirituels. Ce n'est pas un moment fraternel, même si ce moment se vit en fraternité. Le culte n'est pas un spectacle ou une animation, même si le contenu doit édifier. Ce n'est pas un moment où je me fais servir, comme au restaurant avec un menu. Ce n'est pas une simple habitude culturelle, et ce n'est surtout pas un devoir. Le culte au Seigneur n'est rien de tout cela. Alors peut-être que je vais renverser certaines de vos certitudes, ou certaines de vos idées. Tant mieux, tant mieux. Parce que ce livre nous révèle ce qu'est le culte au Seigneur. Alors ce matin, nous abordons le chapitre 12 de cette lettre aux Romains et nous verrons le verset 1 à 8 et on va prendre aussi le verset 11 qui me paraît bien résumer ce passage. Paul dit « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Ce sera de votre part un culte raisonnable, littéralement un culte logique. Vous savez, des fois, les choses spirituelles, ce n'est pas toujours logique hein, dans le monde. Hein. Mais Dieu a sa logique. Dieu a une pensée qui nous dépasse trop, très souvent. Mais l'Écriture nous en révèle un bon morceau, enfin un morceau en tout cas. Et le mot-clé de ce verset, c'est « offrir ». Ça, c'est le mot-clé du culte, « offrir ». Il n'y a pas de culte sans offrande. Et quand je dis offrande, je ne parle pas de la petite corbeille qui est là-bas, qui en fait partie. Souvent, on nous le rappelle, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Dans offrande, il faut voir tout ce qu'on peut offrir au Seigneur, qui n'est souvent qu'un retour de ce qu'il nous a donné, d'ailleurs, hein. On a tout reçu de lui. Mais il n'y a pas de culte sans cadeau à Dieu. Le sens du culte, il est là, offrir. Qu'est-ce que j'offre ? Je ne peux pas offrir un culte au Seigneur les mains vides ou le cœur vide. Et vous savez, même si j'ai les mains vides ou le cœur vide, je peux m'offrir quand même. Quelqu'un avait raconté cette histoire bien connue d'une personne en Afrique, je crois, qui n'avait pas d'argent sur elle quand elle est arrivée au culte. Et quand le panier est passé, elle ne savait pas quoi donner. Et là-bas, ils ont des grands paniers parce que c'est des grandes églises. C'est des grandes corbeilles. Et donc, ne sachant que donner, quand l'offrande a été finie, elle est allée vers la corbeille, elle s'est mise dedans. Elle dit, « Seigneur, je n'ai rien à te donner. » Mais me voici, je m'offre. Ça, c'est le culte, le vrai. Et combien je ne peux qu'encourager à se préparer pour ce culte, même du dimanche, qui n'est qu'une partie du culte, parce que le culte est beaucoup plus large que le dimanche matin, fort heureusement. C'est toute notre vie. Mais combien on a besoin de se préparer en esprit pour ce moment important, pour ne pas venir les mains vides ou le cœur vide, être rempli du Saint-Esprit, être rempli de sa parole, avoir quelque chose à lui dire, une reconnaissance, quelque chose pour édifier les frères aussi. Et combien c'est important. Même dans l'Ancien Testament, même les plus pauvres, Dieu a pensé à eux en disant, si vous n'avez pas grand-chose, prenez un pigeon, une tourterelle, une toute petite bestiole, parce qu'on n'a pas toujours les moyens d'offrir de grandes choses. Et ce n'est pas l'importance de la chose qui compte, c'est vraiment le cadeau. Vous savez, on est dans un monde de consommation et parfois on croit faire des beaux cadeaux en donnant des cadeaux très chers. Je pense toujours à Farida, sa grand-mère qui était pauvre, très pauvre. Un jour, elle t'a offert un jeu de cartes et ça a été un immense bonheur. Tu m'as raconté ça plusieurs fois. Un jeu de cartes qui coûtait quelques francs à l'époque, mais elle avait mis ces quelques francs, un peu comme la veuve dans le tronc. Offrir quoi ? Offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable, un culte logique. Notre corps est le temple de Dieu, on le répète sans arrêt. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose de mis à part, de sanctifié, de destiné à quelque chose. Pas simplement à tailler la haie, passer la tondeuse à gazon, travailler. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et dans ce temple, il y a un culte qui se passe. Pas simplement de 10h à midi, le dimanche matin. Alors bien sûr, sacrifice vivant, attention à cette expression parce que je tremble toujours quand on cite ce passage pour peu qu'il y ait quelqu'un croyant dans la salle ou quelques personnes qui ne sont pas trop au courant de ce que veut dire l'apôtre Paul. Et ça peut faire peur. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Oh ! Il ne s'agit pas d'être un kamikaze, comme dans certaines religions, où s'offrir, c'est se faire exploser. Il ne s'agit pas non plus d'un suicide collectif. Mais imaginez un non-croyant à qui on dit « offrez votre corps comme un sacrifice vivant ». Qu'est-ce qu'ils font dans cette église ? Ils mettent un bûcher, ils mettent le corps dessus et ils offrent un sacrifice vivant. Ça fait flipper, non ? Alors, bien sûr, c'est une image. On se souvient du suicide collectif du temple solaire. Vous qui êtes un peu plus âgés, vous vous rappelez, je ne sais plus en quelle année c'était ça, cette secte du temple solaire qui avait tellement formaté ses adeptes qu'ils avaient tous fini par se donner la mort. Et ils croyaient bien faire, sûrement. Non, on s'offre soi-même tout entier, comme cette personne dans la corbeille, nos mains pour servir, nos bouches pour louer, nos pensées pour comprendre, nos pieds pour agir, nos cœurs pour adorer, etc. C'est notre personne tout entière que nous offrons au Seigneur. C'est ça le culte, selon la logique de Dieu. Nous nous mettons à la disposition du Seigneur et c'est lui le centre de l'attention. Ce n'est plus moi. Un peu comme quand je lis ma Bible, bien sûr qu'elle me fait du bien, mais je dois chercher le Seigneur dans cette Bible. Je dois chercher à le découvrir. Et combien il y a de choses qui sont dites à son sujet et combien ça fait du bien de connaître un Dieu comme le nôtre. Pardon. Un culte raisonnable, nous dit Paul. On pourrait dire une consécration intelligente. Ça n'est pas un saut dans le vide. Ça n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est parfaitement préparé par Dieu. Et qui est très, très divers. Mais il dit que c'est un culte logique. Pourquoi logique ? Vous avez remarqué le mot compassion. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Eh bien, par compassion, Dieu s'est donné à nous en Christ. Il est tout à fait logique que nous nous offrions à lui en retour parce que nous sommes redevables. Bien sûr, il a payé notre dette, mais nous lui sommes éternellement redevables. Si quelqu'un nous paye une dette au niveau humain, bien sûr, on va rien devoir au créancier, mais on sera redevable vis-à-vis de celui qui... Et on va lui être reconnaissant, n'est-ce pas ? C'est tout à fait logique d'être reconnaissant. Et Dieu sait si dans cette société de consommation, on n'est jamais content, Et ça déteint sur nous parfois. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas qu'on a du mal à être reconnaissant, dire oui Seigneur, merci pour ça, pour ça. Nous avons reçu beaucoup de lui, il est logique que nous lui rendions beaucoup en utilisant ses dons et ses aptitudes pour son culte, son royaume, son église, sa gloire. C'est logique. Ça vous paraît logique? Ça vous paraît normal? N'est-ce pas? Le culte est avant tout une attitude de consécration. Alors, je ne sais pas si ça vous parle ce mot, consécration. Les gens qui se consacrent à leur travail à corps et à cri, ils savent de quoi on parle. Parce qu'on donnerait 24 heures sur 24 tellement on aime notre travail, tellement on est pris dedans, on se consacre. On peut aussi se consacrer au Seigneur. Et en ce moment, je lis un petit peu les chroniques. Et il y a un personnage qui fait partie de mes préférés dans la Bible, c'est Ézéchias. Ah, j'aime bien Ézéchias. Je dis à ma femme, ne te prive pas de l'Ancien Testament, vas-y. Il y a tellement de pépites dans l'Ancien Testament. Ézéchias, en 2 Chroniques 29, versets 3 à 5, il dit la première année, le premier mois, on voit que c'est une priorité chez lui, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, donc elles étaient visiblement fermées. Ce lieu qui devait accueillir des adorateurs était fermé. Un peu comme si on fermait les portes ici le dimanche matin. Et il les répara, ces portes. Ça veut dire qu'elles n'étaient pas en bon état. Il y avait de la négligence. Il fit venir les prêtres et les lévites qu'il rassembla sur la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, consacrez-vous maintenant et reconsacrez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Faites sortir ce qui est souillé du sanctuaire. Un roi nouveau, je ne sais plus quel âge il avait d'ailleurs, première année, premier mois, son premier souci, ce n'est pas de dire, bon, je vais réorganiser conseil des ministres ou je ne sais pas quoi. Non. Son premier souci a été le temple de Dieu, le culte au Seigneur. Oh là là, si on avait des présidents comme ça, mes amis, ça serait bien, non? Non? Hein, difficile à croire, je suis d'accord avec vous. Mais si seulement. Hein. Versets 6 à 8, Ézéchias dit, nos pères ont fait preuve d'infidélité. Notre Dieu, ils l'ont abandonné, ils se sont détournés du tabernacle. Ils n'ont offert, on retrouve le mot-clé, ils n'ont offert ni parfum, ni holocauste au Dieu d'Israël dans le sanctuaire. Verset 8 à 10, il dit, la colère de l'Éternel, parce qu'il y a des conséquences malheureusement. Le culte, on peut voir ça comme quelque chose d'accessoire, dans une vie, dans une semaine. Mais là, il y a des conséquences désastreuses pour Israël. La colère de l'Éternel a donc reposé sur Juda et sur Jérusalem. Je dis Israël, c'est Juda. Et il les a livrés à la terreur, à la dévastation et à la moquerie. C'est pour cela que nos pères sont tombés sous l'épée, que nos fils, nos filles et nos femmes sont en déportation. Vous voyez que les Judéens ont négligé le culte et il y a eu des conséquences derrière. Alors ici, c'est un certain nombre de conséquences, mais est-ce que ça ne peut pas être la même chose pour nous? Est-ce que Dieu a changé? Dieu est le même depuis toujours. Et nous, parfois, on se fait de Dieu une idée un peu du bon copain qui supporte tout, bien sûr. Il est plein de bonté. Mais sa sainteté est tellement grande et sa gloire, seul, il ne la donnera à personne d'autre. Et verset 11, il dit une belle phrase, « Mes fils ». Cette relation entre un roi et ses sujets, il les appelle mes fils. Mes fils, cessez désormais de vous montrer négligents, car vous avez été choisis. Ça vous dit rien, ça? Si on transpose avec le Nouveau Testament, choisi. Tiens, j'ai déjà entendu ce mot-là quelque part. Hein. Vous avez été choisi par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Le mot parfum ne vous dit rien dans le Nouveau Testament ? Oh, ça ne se fait plus, les parfums, dans le Nouveau Testament. Comment ? Oui, ça, c'est nous l'odeur qu'on a. Non, je pensais à Apocalypse, vous savez, ces coupes dans lesquelles la prière des saints est stockée. Les parfums. Prière d'adoration, de louange, de toutes sortes. Hein. Alors, vous allez me dire, mais en quoi sommes-nous concernés ? Là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, il y a des Lévites. Eh bien, curieusement, comme vous le savez, l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 5, il nous dit que nous sommes un groupe de prêtres saints. J'aime bien ça. Ce n'est pas des spécialistes qui sont prêtres. Nous sommes, à partir du moment où nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous sommes des prêtres saints. Pourquoi ? Afin d'offrir, dit Pierre, des sacrifices spirituels. Offrir, on retrouve cette idée, cette clé du culte, offrir, que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Jésus-Christ prend nos offrandes et il les présente au Père. Il est le souverain sacrificateur, il n'y en a pas d'autre. Et il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il prend nos parfums, il prend nos louanges, il prend tout ce qu'on offre au Seigneur et il lui présente. Vous imaginez bien qu'une fois que c'est passé dans les mains de Jésus, c'est parfaitement sanctifié, c'est parfaitement pur, c'est parfaitement agréable à Dieu. Fantastique, non ? Alors que lui offrons-nous quand nous venons au culte, selon la formule consacrée ? Que lui offrons-nous ? Est-ce que nous venons avec notre caddie ou est-ce que nous venons avec notre cadeau ? Et si nous n'avons pas de cadeau, est-ce que nous nous offrons nous-mêmes ? Est-ce que nous nous consacrons ? Est-ce que nous nous reconsacrons ? Sommes-nous tous dans une attitude de consécration et de disponibilité ? La consécration à Dieu n'est pas une valeur mondaine. C'est pour ça que nous, on est quand même en difficulté parce que le monde nous assaille par toutes sortes de pensées qui ne s'accordent pas du tout avec la logique de Dieu. Romains 12, verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce qui est logique selon Dieu, la logique de Dieu. Alors, le monde prône le statut social, la richesse, le pouvoir, la célébrité, le bonheur égoïste, le bien-être à tout prix, la consommation, le plaisir. Jésus-Christ appelle au service, au don de soi pour Dieu. C'est logique. Le monde passe son temps à consommer. Hier, j'ai vu une dame, elle avait un caddie qui débordait. Il y avait la moitié du caddie, c'était du papier toilette. Je ne sais pas ce qu'elle en faisait. Elle devait écrire, elle devait le passer dans l'imprimante sûrement, parce qu'il y en avait, ou alors elle devait le distribuer aux voisins. On consomme. Et quand je vais au supermarché, quand je regarde tout ce qui est inutile dans les rayons, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? À quoi ça sert ? Consommer. Le monde passe son temps à consommer. Et nous, on est pris dans le piège des fois. Mais l'Église est appelée à offrir et à servir. Bien sûr, on a besoin de choses, hein, on est bien d'accord. On va continuer à aller au supermarché la semaine prochaine. Mais ce n'est pas le plus important. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout vous sera donné par-dessus. Condition de bosser, bien entendu. Si on peut. Alors, il n'y a pas d'un côté ceux qui offrent et servent, et de l'autre ceux qui consomment et se servent eux-mêmes. Ce n'est pas la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est que nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous appelés à offrir quelque chose, Que ce soit grand, pas grand à nos yeux, c'est pas important. On parle parfois de ceux qui font le culte. C'est une expression qui revient de temps en temps. Donc, en général, on va dire ceux qui font le culte. Alors, il y a Jorgan, il y a Joël avec le groupe de louanges, puis il y a Gérard pour ce coup-là qui va prêcher. Eux, ils font le culte. Non, ce n'est pas la logique de Dieu. Parce que nous sommes tous, si nous sommes chrétiens, si nous sommes en Christ, nous sommes tous des prêtres. Nous sommes tous appelés à offrir quelque chose à Dieu. Et donc, il n'y a pas que les gens devant. Donc, franchement, il faut réfléchir à cette importance. Parce qu'on a été tellement déformés par l'histoire, entre l'Église primitive... Et puis, les siècles qui ont suivi, on a commencé à mettre des rangs d'oignons, on a commencé à mettre une chaire, on a commencé à... Mais ce n'est pas du tout une bonne vision de la logique de Dieu en faveur de son culte. Nous sommes tous prêtres de l'Éternel. Si nous sommes chrétiens, nous sommes tous prêtres de l'Éternel. Et Jésus est notre souverain sacrificateur. L'Esprit-Saint nous assiste dans cette glorieuse fonction. J'aime bien dire que le culte, le service, est une glorieuse fonction. Est-ce que nous ressentons vraiment cette gloire de Dieu, rien qu'en étant à ses pieds, en le servant ? Ne considérons pas comme extraordinaire d'offrir et de servir. C'est normal, c'est logique. La consécration exige un certain état d'esprit, selon la lettre aux Romains, verset 3 du chapitre 12. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. » Littéralement, ça veut dire ne pas avoir une conduite hautaine. On verra ce que ça veut dire plus précisément dans un instant. « Mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. » Chacun a reçu une mesure de foi. Et on va voir ce que c'est. Ézéchias est devenu orgueilleux à un moment. Lui que j'admire tant, il a montré sa faiblesse, comme nous avons des faiblesses aussi, comme nous pouvons devenir orgueilleux. Et c'est vrai que ce n'est pas vraiment la qualité d'un serviteur. Mais il a dû s'humilier, et il s'est humilié devant son Dieu, et il est revenu à son Dieu à un moment donné. Et j'aime bien, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de rois dont il est dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et puis alors il y a des catastrophes derrière. Et alors lui, il a su s'humilier devant son Dieu. Il est revenu à l'essentiel de sa vie, de ce qui a fait le début de son royaume, priorité au culte de l'Éternel. De Chroniques 32, versets 25 et 26. Donc un serviteur doit garder des sentiments modestes. L'idée ici, c'est une attitude saine, c'est-à-dire ni se surestimer, mais pas se sous-estimer. Je pense que quelque part, se sous-estimer, c'est soit de la paresse, soit de l'orgueil. Parce qu'on a tous un potentiel divin en nous, et on n'a pas à juger notre potentiel. Non, on a ce que Dieu nous donne. Et ça, on devrait en être content, on devrait en être satisfait. On ne devrait pas regarder à côté. Donc, ni se surestimer, ni se sous-estimer. Nous sommes ce que nous sommes en Christ. Nous avons une identité en Christ. Nous avons un CV. Nous avons des qualités. Dieu nous a donné, nous dit Pierre, encore une fois, il nous aide beaucoup ce matin, Pierre. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, le culte, tout. Peut-être vous avez l'impression qu'il vous manque des trucs. Non, il vous manque rien, mes amis, rien. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. 2 Pierre 1, verset 3. Alors inutile de se comparer, l'important est d'être à notre place. Et si ce n'est pas pareil pour le frère, ce n'est pas grave. Vous avez une place unique. Tout est grâce et la gloire revient au Seigneur seul, c'est son culte. Chacun a reçu une certaine mesure de foi, une histoire unique. Vous savez que vous avez une histoire unique ? On n'entend plus trop de témoignages ici, c'est dommage, il faudra relancer ça. N'hésitez pas à venir rendre témoignage de votre foi quand vous êtes venu au Seigneur. Venez, n'hésitez pas, soyez pas timide. C'est une façon d'offrir au Seigneur votre connaissance et de nous encourager terriblement aussi. Hein ? Nous avons une histoire unique, une personnalité unique. Nous avons un appel unique, une vocation unique, un ministère unique, des capacités uniques, des dons que d'autres n'ont pas. Un potentiel divin, mes amis. Vous en êtes conscients de ça ? Vous avez un potentiel divin en vous, mais ce n'est pas pour vous-même, même si vous en profitez quelque part. Hein, on reçoit tellement en offrant à Dieu, mais c'est pour la gloire du Seigneur. Alors que lui offrons-nous ? Que puisons-nous dans ce potentiel divin pour sa gloire, pour son culte ? Chacun sa fonction, chacun sa part. À la seule façon de découvrir sa fonction, sa part, c'est de servir. Après 46 ans de conversion, je n'ai pas d'autre réponse à vous donner. Si vous voulez connaître votre fonction et votre part dans le royaume de Dieu, dans l'Église, c'est en servant que vous allez le découvrir. Vous allez faire comme moi, vous allez vous casser le nez des bons coups, si ce n'est pas déjà fait. Mais ne vous découragez pas. C'est en servant qu'on découvre ce pourquoi le Seigneur il nous appelle. Et combien on est heureux quand on sait notre mission sur terre, quand on sait que l'important, c'est d'accomplir cette mission. Ce n'est pas de consommer, consommer, consommer et reconsommer. C'est servir, s'offrir, se consacrer à Dieu. Romains 12, versets 4 et 5, « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Tu ne dois pas te sentir exclu. Si tu es en Christ, tu as ta part. Non pas la part du gâteau, mais la part dans le service divin, dans le culte du Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Que se passe-t-il dans un corps quand un membre ou un organe ne joue pas son rôle ? S'il est malade ou s'il est cassé, le corps ne fonctionne pas normalement et les autres membres se fatiguent plus vite. Le corps de Christ, l'Église, est conçu pour répartir les fonctions afin qu'aucun membre soit dans l'impossibilité de faire sa part et qu'aucun membre soit débordé au risque de se décourager, de se fatiguer, voire d'abandonner. Si tu es chrétien, tu as une fonction précise, tu as une part dans le service divin. Et ça, je peux vous dire que, quel honneur. On ne mérite pas, hein, mais quel honneur. Quel honneur de servir le grand Dieu de l'univers. Je ne sais pas si on réalise bien. Difficile, hein ? Ce n'est pas évident. Mais heureusement que l'Écriture est là pour nous montrer notre place. Toujours Pierre, au chapitre 4 et verset 10 de sa première lettre, un verset que vous connaissez sûrement bien, « Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Donc ça veut dire que vous avez reçu un don, n'est-ce pas ? Alors j'ai entendu ça des fois, « Ah, je ne connais pas mes dons, donc je ne peux pas servir. » Alors sers et tu les découvriras. Vous savez, c'est comme la foi et la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais évidemment, si tu cherches la gloire d'abord, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Des dons différents et complémentaires. Romains 12, versets 6 à 8, nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Et rappelons-le, ils ont été distribués par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Donc c'est dans sa souveraineté qu'il nous a donné ce que nous avons et il a fait de nous ce que nous sommes. Et même Paul, il le dit, « Je suis ce que je suis et la grâce de Dieu n'a pas été vaine pour moi. » Si quelqu'un a le don de prophétie, de prédicateur, on pourrait dire, qu'il l'exerce en accord avec la foi en Jésus-Christ, la foi en la parole de Dieu, ça suppose évidemment la fidélité à l'Écriture. J'espère que c'est le cas ce matin. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Vous verrez tous les petits mots soulignés là. Ils insistent sur le fait que c'est une façon d'offrir, d'exercer, de se consacrer à son service. Là, on trouve les diaconats. Moi, j'encourage toujours l'Église à créer des diaconats avec les qualités spirituelles que Dieu demande dans sa logique et pour le service divin dans des tâches très, très diverses. Ne pas faire ça d'une manière nonchalante. Que celui qui enseigne se donne, encore cette idée d'offrir, se donne à son enseignement. Ça suppose du temps, ça suppose du sérieux, ça suppose un peu de transpiration. Quelqu'un disait qu'il n'y a pas d'inspiration sans transpiration. Mais je crois ça. Même si Dieu pourvoit toutes choses. Et celui qui a le don d'encourager, sous-entendu, se donne à l'encouragement, à l'exhortation, littéralement. Que celui qui donne, qui a des biens matériels, qui a envie de donner à l'œuvre de Dieu, eh bien qu'il le fasse avec générosité. Et là, c'est intéressant parce que le mot « donner » signifie littéralement le répartissant. Ça ne vous rappelle rien ? En acte 6, quand les veuves, certaines veuves étaient négligées dans la distribution des biens, il y a eu des conflits avec ça. Et les apôtres, vous vous rappelez ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit « Choisissez parmi vous sept hommes de qui on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit, et nous les chargerons de cet emploi. » Encore, c'était fait selon la logique de Dieu. Il y avait des qualités, il y avait un nombre précis, et il y avait derrière un cahier des charges. Celui qui préside ou qui dirige le fasse avec zèle, enthousiasme, ardeur, empressement. Que celui qui exerce la bienveillance, la miséricorde, le fasse avec joie, même s'il est face à des situations très difficiles. Cette liste n'est pas exhaustive. On retrouve les dons dans 1 Corinthiens 12, dans Éphésiens 4, dans 1 Pierre chapitre 4. Ça, vous les connaissez sans doute. Mais un seul but, et c'est Pierre qui nous le donne dans ce passage d'1 Pierre 4, c'est que Dieu reçoive la gloire qui lui est due. Ça, c'est le but. Voilà le culte logique, cadeau et non caddie. S'offrir et non être là pour consommer. Mais le miracle, c'est que quand on donne, on reçoit au centuple. Et Jésus a même dit qu'il y a plus de bonheur, de joie d'offrir que de donner, que de recevoir. En conclusion, moi d'abord, j'aimerais dire un truc important, c'est que, oui, merci Seigneur pour tous les services déjà assurés à ce jour dans notre Église. Je pense que dans notre Église, alors on ne voit pas tout, hein, on ne voit pas tout, mais il y a des personnes qui franchement se donnent beaucoup, 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 beaucoup. Merci Seigneur, bénis-les. Et puis, je vais utiliser le fameux verset 11 qui, je trouve, résume bien l'ensemble de ce qu'on vient de voir ce matin. Ayez du zèle et non de la paresse. Littéralement, la paresse, c'est la nonchalance. Moi, ça me fait penser un petit peu, quand on fait quelque chose, que ce soit pour Dieu ou pour quelqu'un d'autre, de se dire « Oh, ça ira bien comme ça. On va faire ça vite fait sur le gaz, on va faire ça rapidement. » On ne va pas trop se casser la tête. Allez. Et tout d'un coup, on oublie que ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Ah. Et dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui offraient des sacrifices qui étaient... Ils avaient une vieille bestiole qui était un peu estropiée. Alors ils se disaient, oh, plutôt que de la mettre à la poubelle, n'est-ce pas, on va la mettre dans le culte du Seigneur, hein. Vous qui connaissez l'Écriture, vous savez ce que Dieu en pense. Allez donc offrir une bête abîmée à votre gouverneur, vous verrez ce qu'il en dit. Et ça nous montre bien qu'on doit toujours rechercher l'excellence dans le service. ne pas être nonchalant, ne pas dire « Oh, mais ça ira bien, pour, ça suffit, il n'y a pas besoin de passer plus de temps, il n'y a pas besoin de plus de préparation. » Attention, attention, nous nous adressons au grand Dieu de l'univers. Et nous devons avoir un petit peu de fébrilité quand on prépare quelque chose, parce que des fois, c'est vrai que on est un petit peu sur les genoux, mais on peut retrouver des forces en lui. Ayez du zèle, non de la paresse, de la nonchalance. Soyez fervent d'esprit, c'est très intéressant cette expression. Littéralement, c'est l'esprit bouillant. Ça vous rappelle rien ? Bouillant, ça vous dit quoi ? Comment ? Dans l'Apocalypse, si seulement vous étiez froid ou bouillant, mais parce que vous êtes tiède, dit-il à une certaine église, je vous vomirai de ma bouche. Pour étudier ça une autre fois, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur. Quel bel encouragement de l'apôtre Paul pour nous peut-être qui... avant un certain nombre d'années, qui, bon, il y a un petit peu d'usure quand même. Mais le Seigneur nous renouvelle, il nous fait rajeunir comme l'aigle. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Même si vous avez l'impression, oh, à mon âge. Non, mais qui ? Où est-ce que vous voyez qu'il y a un problème d'âge ? Il n'y a pas d'âge. On peut tous rendre un culte au Seigneur, offrir quelque chose au Seigneur. Vous avez reçu, alors offrez-lui votre vie, offrez-lui votre temps, offrez-lui vos talents, vos hommages, consacrez-vous, comme disait Ézéchias. Souvenons-nous de la parabole des talents et par pitié évitons le troisième scénario de Matthieu 25, versets 14 et 30. Ça vous fera l'occasion d'aller le voir, vous pouvez noter la référence. Ça interpelle cette parabole. Quel que soit ton talent, utilise-le pour le Seigneur. Tu as un talent, au moins un, nous dit l'apôtre Pierre. Ne le cache pas dans un linge enfoui en terre. Le Seigneur verrait cela d'un très mauvais œil. Tu sais parler, alors n'hésite pas à louer Dieu à haute voix et avec ferveur le dimanche matin. Dis-lui ta reconnaissance. Dis-lui comme tu l'aimes. Et ça va faire un bien fou à l'assemblée. Sors du silence. Sors de la timidité. N'aie pas peur. Tu es un prêtre. Tu es un sacrificateur du grand Dieu, du Dieu très haut. Et il n'a qu'une envie, c'est d'entendre l'hommage de tes lèvres, comme dit l'Écriture. Ça, c'est déjà une chose toute simple à faire, que tout le monde peut faire. Tu sais jouer d'un instrument correctement ? Alors joue pour ton Dieu, en particulier le dimanche. Bien sûr, dans ta chambre, c'est pas mal non plus, mais... les voisins, ça peut, ils peuvent en profiter. Mais le dimanche matin, tu as un instrument de musique, tu joues bien, tu joues correct, viens, viens, offre-le à Dieu. Mets-le là, ton instrument, offre-le au Seigneur. Et accorde-toi avec les frères pour jouer d'accord, sur les mêmes accords. Hein, d'accord ? Tu chantes juste, alors chante pour ton Dieu. Ce matin, on était contents d'avoir plusieurs amis là qui ont compris ça. C'est génial. Chante pour ton Dieu. Il y a un groupe de louanges. Alors, des fois, il y en a qui se fatiguent, il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui... on n'est pas toujours dispo pour diverses raisons, mais il y a de la place. Mais il faut chanter juste, bien sûr. Bon. Là aussi, il faut s'accorder ensemble pour que ce soit joli, à l'honneur de l'Éternel. Tu aimes t'occuper des enfants ? Ah, alors offre-toi pour l'école du dimanche. Vas-y, fonce, forme-toi. Forme-toi. Ta place est peut-être là. Tu sais prêcher ou orienter un culte, alors propose des services. J'ai peur que certains se fatiguent avec le temps. Tu as échoué dans un service, ne sois pas découragé, teste un autre. Dieu ne nous fera jamais le reproche de nous planter quelque part si on a été par la foi. Et si on a fait de notre mieux, et il nous montrera à travers cet échec vers quoi il faut se tourner pour lui plaire. Tu peux t'occuper de la bienfaisance, de la convivialité, tu peux t'occuper de visites, tu peux encourager par des coups de fil, des SMS, des mails, des lettres, invités pour un café, un repas, témoigner. Enfin, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur qu'on peut lui offrir. Et c'est quelque chose que vous allez offrir, que personne d'autre d'entre nous pourront le faire, parce qu'il n'y a que vous qui avez ce don-là. Et ça, c'est magnifique dans l'Église. Il y a des dons vraiment exceptionnels. Plus on regarde les gens, on se dit, mais c'est pas moi, je ne pourrais jamais faire ça. Vous me voyez, moi, à la technique, là-bas, derrière les écrans ? Ah non, 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 non. Et je vais te dire pourquoi, parce que déjà, je suis miro, j'ai un problème visuel. Donc les écrans, surtout quand ils sont deux, puis grands comme ça, ça pose un problème. Et j'ai vu au boulot ce que ça faisait. Et dans mon cerveau, j'ai un Intel Pentium là, qui n'est pas très rapide des fois. Donc, non. Après, Dieu peut faire des miracles. Hein. Dieu peut faire des miracles. Pour l'instant, il m'a montré autre chose. Que chacun puisse s'offrir et trouver sa fonction dans le corps de Christ et pour sa gloire. Et j'aimerais qu'on se lève maintenant. Nous allons écouter, nous allons chanter un chant qu'on pourrait dire un chant de consécration. Et ça sera pour vous l'occasion, après on va prier un petit peu, quelques minutes, et ce sera pour vous l'occasion peut-être de vous consacrer pour la première fois, de